On va déguster. Sur France Inter.
Alors Zazie, vous allez nous parler d'une sucrerie qui est un peu votre nougat à vous.
Et oui, François Régis, c'est une douceur que je mangeais de façon un peu exceptionnelle, moi, quand j'étais enfant. Donc je vous raconte un peu ma vie. On habitait en banlieue parisienne et mon père nous ramenait parfois de Paris cette boîte en fer doré avec une inscription soit verte, soit rouge, soit bleue. Donc c'était une pâte assez sucrée. On avait le droit d'en avoir une chacune avec mes sœurs, donc souvent on l'avait mangée dans la soirée.
Ah carrément, et la digestion, ça se passait comment?
Ça se passait très bien. Et je sais pas si vous savez de quoi je parle, cette pâte un peu sucrée.
Moi j'ai ma petite idée,
c'est
j'adore.
Ouf. C'est ouf.
C'est incroyable.
C'est bon.
Je parle du halva. J'ai appelé mon père avant cette émission pour lui demander d'où ça venait, cette tradition. Je pensais que c'était lié à ses origines arméniennes. Il m'a d'abord dit non, bon, moi j'habitais dans le 10e quand j'étais enfant, donc il y avait ça dans les épiceries turques autour de chez moi. Et puis avant de raccrocher, il m'a dit mais maintenant que tu m'en reparles, c'est peut-être mon père qui en mangeait, ça me dit quelque chose. Donc voilà, j'ai voulu en savoir un petit peu plus et je suis allée voir Roy Handel, c'est le fondateur d'Épices Chira, qui importe des épices bio, des condiments, des produits un peu particuliers, en direct des producteurs, et je lui ai demandé de m'expliquer ce qu'était le halva.
Les halva, en fait, c'est de la pâte de sésame, on va dire les tahini ou la trina, qui est mélangée avec du sucre et avec une racine d'une orchidée qui porte le nom de l'orchidée. Au Moyen-Orient, on appelle ça la racine du halva, en fait, qui permet de saponifier cette préparation, lui donner cette texture très étonnante, très légèrement granuleuse, cristallisée, qui crisse un peu sous la dent et en même temps qui est fondante. C'est vraiment quelque chose à l'origine qui est propre à cette racine. Aujourd'hui, on les fait notamment avec l'ajout des produits chimiques qui permettent d'arriver au même résultat.
Toi, tu l'as découvert comment, le halva ?
Je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai grandi en Israël. En Israël, il y a vraiment... C'est un peu comme le chocolat, quoi. On les mange vraiment et tout le temps. On a tout le temps à la maison. Et un petit goûter, on prend un bout de halva. Au petit déjeuner, on met un petit bout de halva. Il y a tout le temps du halva dans la vie.
Mais alors, le halva, Zazie, on ne le trouve pas qu'en Israël ?
Non, on en trouve partout dans tout le pourtour méditerranéen. En fait, partout où l'influence ottomane s'est exercée. C'est aussi une sucrerie qui a énormément voyagé au fil des migrations. D'ailleurs, en arabe, halva se dit halwa, enfin avec un W. Je prononce certainement très mal le H aspiré. Et il peut se traduire par confiserie et par charme. Roy Handel, il m'expliquait que le halva, il désigne au départ n'importe quelle pâte très sucrée et que la texture et les goûts peuvent être différents d'un pays à l'autre. Mm-hmm. Il existe par exemple en Inde un halva à base de carottes, le gajara halwa. Mm-hmm. En Turquie, en Arménie ou en Israël, où on prononce halva avec un V. Le plus connu, c'est le halva tahinia, donc celui au sésame. On va en goûter. Je vais juste laisser Roy Handel nous raconter d'où il vient.
J'ai découvert ces halva grâce à une journaliste israélienne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ronit Vered, qui écrit dans Haaretz et qui parle souvent justement des artisans qui font des produits un peu introuvables en Israël et en Palestine. Elle parlait justement de cet artisan qui est toujours à Abu Ghosh, donc c'est une ville à 15-20 minutes de Jérusalem. Il fait ça vraiment lui-même à la main, c'est des petites productions. Il fait du tahini et du halva, et c'est vrai que c'est un halva qui prend son temps, en fait. C'est vraiment ça, et comme dans tous les artisanats, il faut prendre son temps à bien faire, et donc il prend les sésames, qu'il va décortiquer d'abord, et lui-même, après il va les sécher, il va les griller légèrement, il va l'écraser pour faire du tahini, qu'il va ensuite saponifier avec les sucres, etc. Donc il y a toutes les étapes, avant d'arriver vraiment au halva.
Alors voilà, vous l'avez devant vous. Vous l'avez déjà tous fini.
Carrément boulotté. Et c'est Mathieu Conquérant qui nous a piqué toutes nos portions.
Il est particulièrement délicieux. Et je vous ai fait aussi, François Régis, vous avez un petit déjeuner très simple que Roy, lui, mange souvent quand il va rencontrer des producteurs en Palestine. C'est juste du tahini, comme ça, cru, posé dans une assiette sur laquelle il fait couler de la mélasse de date.
Oh,
et on y trempe de la pita. Donc c'est vraiment un peu le goût du halva, mais la texture est différente.
Extraordinaire.
Très bon, ça aussi.
Avec le goût de la mélasse de date, fabuleux. Et on peut trouver le halva de Chira ou pas ?
Alors malheureusement non, ils en importent plus. Je suis désolée, c'est un peu cruel. On a eu la chance de goûter le dernier là, mais en revanche on peut trouver.
Ça vous nous faites un mauvais coup.
On a mangé le dernier exemplaire vivant.
Mais alors en fait on peut quand même trouver son tahini qui vient d'une toute petite fabrique de Naplouse en Palestine et qui est particulièrement délicieux. Et on peut faire avec du halva maison.
Et ben voilà, pour vous rattraper, parce que là on est vraiment très déçus, on allait se ruer sur tous les stocks de ce halva, vous avez une recette maison à nous fournir.
Oui, j'ai demandé à Sonia Esgulian, la célèbre cuisinière lyonnaise d'origine arménienne. Elle voulait, elle, retrouver le goût du halva que lui préparait sa grand-mère arménienne Paloun. Et elle a tâtonné avant de trouver la bonne recette. Donc elle y est parvenue, et elle a eu la gentillesse de nous la donner. Alors, je vous la donne. Donc, pour commencer, Sonia, elle mixe très finement de la poudre de lait entier. Donc, c'est très important que ce soit du lait entier. Si c'est du lait demi-écrémé, ça marche pas. Et du sucre semoule. Donc, à quantité égale, disons 125 grammes de chaque. Elle met cela dans un robot mélangeur où elle ajoute très doucement 250 grammes de tahini et une cuillère à soupe de fleur d'oranger. Et donc, vraiment, c'est très doucement parce qu'il faut sentir au toucher qu'on va pouvoir amalgamer cette pâte. Elle chemise ensuite un bol ou une boîte avec du film alimentaire. Mmh. Elle met 50 grammes de pistache qu'elle étale. Elle ajoute le halva dessus, elle rabat le film alimentaire et elle pose un poids pour que ça se tasse bien. Elle laisse ça au frais quelques heures et elle démoule. Et apparemment, c'est délicieux. Moi, j'ai pas encore goûté, mais vous, François Rélis, apparemment, vous connaissez la
recette. Je n'ose pas le dire. J'ai eu droit à ma boîte. J'allais dire ma petite boîte, mais non, c'était une grosse boîte et j'ai tout bouloté.
Ah bah,
je peux pas vous le faire goûter, mais je confirme qu'il est délicieux.
Bah moi j'en ferai, en tout cas ça c'est évident.
Ah non, elle fait et pourtant ça fait 20 ans qu'elle essaye de trouver le bon goût du halva. Là je crois qu'elle a réussi, Sonia Esgulian.
Oui, elle m'a dit qu'elle avait été très émue parce qu'elle a vraiment avec cette recette retrouvé aussi des souvenirs d'enfance. Donc je vous ai mis la recette sur le site. Je vous mets aussi les références de l'épicerie Chira. Et de mon côté, j'invite toutes les auditrices et auditeurs à nous partager leur recette de halva et les histoires qui vont avec, parce que je trouve que c'est un produit qui raconte évidemment aussi plein d'histoires de mémoire et de
c'est
goût.
La première fois qu'en 10 ans d'émission, on évoque vraiment en détail cette douceur, cette confiserie. Un grand merci, Zazie Tavitian.